Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 24 novembre 2024. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, dans le segment « Dis-moi ce que tu lis », je reçois Olivier Goujon, le directeur général du Salon du livre de Montréal. C'est l'auteur Jean-François Sénéchal qui assure la chronique « Tribune littéraire de grandes personnes » et on terminera avec les événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités rares. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois l'auteur jeunesse Jocelyn Boisvert et Sophie Curler de la Direction des bibliothèques du Service de la culture de Montréal nous présente ses coups de cœur de bibliothécaire. Encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir l'auteur jeunesse Jocelyn Boisvert. Bonjour Jocelyn.
Bonjour.
Bienvenue Jocelyn à Imagémo à voix haute. J'aimerais en débutant, on se dit tu. Tutoyons-nous. Donc, je te présente aux auditeurs et aux auditrices. T'es né à Sherbrooke en 1900. Donc, tu passes le cap des 40 ans cette année.
Je passe le cap des 50 ans, en fait.
Oh oui, moi, c'est...
J'ai le demi-siècle.
Ma façon de compter.
Mais j'aurais pas dû vous corriger, en fait. J'aurais dû garder le 40. C'était plus avantageux.
Bon, 50. Bon. OK, on va y aller avec 50. Un demi-siècle. Tu as fait des études en littérature à l'Université de Sherbrooke et puis en scénarisation cinématographique à l'UQAM. Tu as, entre autres, habité au Nunavik avant de t'établir aux îles de la Madeleine avec ta famille. C'est là que tu vis avec tes deux enfants. Ben un ou deux, là, ça dépend de l'âge qu'ils ont.
J'en ai deux. Jusqu'aux dernières nouvelles, j'en ai deux.
Mais ils ne vivent pas avec toi à temps plein, parce qu'il y en a un qui est parti, une qui est partie aux études.
Mais les deux, en fait, sont aux études.
C'est
maintenant.
C'est ça.
Alors, ils sont... Je suis un papa libre maintenant.
Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Alors, tu as publié en 1998 chez Dominique et compagnie ton premier roman jeunesse. Ça s'appelait « Les 101 peurs du petit Robert ». Et depuis, son pari paru chez plusieurs éditeurs, plus de... Là, le nombre, c'est comme l'âge, on ne s'entend pas.
Oui, non,
des fois, c'est 60.
Même moi, le nombre, c'est pas clair, là, mais c'est beaucoup quand même.
Ça varie de 60 à 94 selon les sources. Et c'est vraiment énorme, qu'importe. Ouais. En 2018, le Conseil des arts et des lettres du Québec t'a décerné le prix du créateur de l'année aux îles de la Madeleine. En 2017, tu as publié ton premier roman d'épouvante, Les Moustiques, qui était finaliste au prix littéraire du gouverneur général. L'épouvante, là, c'est un style qui colle depuis à ta peau d'auteur, qui fait ta popularité auprès des jeunes lecteurs. On peut dire que l'Halloween fait des heures supplémentaires grâce à toi. Qu'est-ce qui t'amuse dans ce genre d'écriture?
C'est vrai que tu parles des moustiques, ça a vraiment été mon premier pas dans l'horreur. Puis après ça, j'ai vraiment, tu sais, c'est un livre sur les moustiques, puis j'aime bien dire que ça m'a donné la piqûre de l'horreur. Puis je pense que la pandémie a quand même contribué un peu à mon affection pour l'horreur et tout. Puis c'est vrai qu'il y a un engouement chez les jeunes.
Ah, oui.
Vraiment, c'est palpable. Et moi, j'adore ça, écrire l'horreur. Là. C'est vraiment un grand plaisir. Puis c'est des peurs fondamentales. Tu sais, je veux dire, les histoires, là, pour quelle raison on ouvre un livre, dans le fond, c'est qu'on veut vivre des émotions qui sont fortes. Quand on va dans l'horreur, on va dans quelque chose de viscéral. On va... Et les jeunes ont de la difficulté, pas tous les jeunes, certains jeunes ont de la difficulté à ouvrir un livre et à lire.
Ouais.
Donc, je pense, je me dis, l'important, c'est de les faire lire. Que ce soit de l'horreur, de la comédie, de la romance, n'importe quoi. S'ils se mettent des mots dans la tête, ben, c'est déjà un pari réussi. Et moi, j'y trouve complètement mon compte. J'ai vraiment un énorme plaisir dans l'horreur de faire des situations vraiment effrayant. Tu sais, de prendre des personnages que je fais aimer au lecteur, puis après ça, d'écrire des situations, les mettre dans des situations qu'on ne voudrait pas vivre. Et après ça, moi, comme auteur, de dire, OK, mais maintenant, comment ils vont s'en sortir?
C'est ça le
Alors, je ne suis
défi,
pas
hein?
dans l'horreur véritable. Je ne veux pas que
Non.
personne fasse de cauchemar. Souvent, mon horreur va flirter un petit peu avec avec les histoires d'action. Il y a quand même beaucoup
Ouais.
d'action dans mes.
Action, suspense. Je l'ai dit tantôt, ta carrière est foisonnante, littéralement. T'as beaucoup publié chez plusieurs éditeurs, La Courte Échelle dans la collection Noire, chez Soulière, chez Bayard, chez Dupuis en Belgique, chez Les Malins, chez Québec Amérique et chez Foulire. Je vais mettre le lien sur le site de l'émission vers leslibraires.ca là, pour que les auditeurs puissent voir tout ça. Il y en a tellement, moi je peux pas tous les mentionner ici. Tu mets souvent en scène des enfants, des jeunes qui vivent des situations qui sont souvent fantastiques, mais qui sont inspirées de réalisme. Très souvent dans tes romans, il y a des animaux maléfiques, menaçants qui sont impliqués. Tu plonges les lecteurs dans des univers, des histoires haletantes qu'on lit, qu'on regarde un film. On le dit tantôt, c'est toujours dans le suspense, l'action, puis souvent beaucoup d'humour. Si je te demandais de choisir de nommer quelques-uns des titres des collections que tu as écrites ou que tu as écrits qui ont été plus marquants pour toi, qu'est-ce qui te vient en tête?
Ben, écoute, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, hein. Puis, tu sais, on réalise pas à quel point on en a fait beaucoup parce qu'on est toujours dans le prochain projet. Mais des fois, quand je regarde ça, je suis comme un peu étonné moi-même. C'est une bonne question. C'est sûr qu'il faudrait que je cite les moustiques, tu sais, parce que les moustiques, ça, c'était le début de mes premiers pas dans l'horreur. Ça, c'est un incontournable. D'ailleurs, j'ai écrit la suite, petite nouvelle en primeur, et pas pour finir encore, mais elle est
C'était à
écrite.
venir.
C'est à
Oh,
venir,
wow.
exactement. J'ai adoré écrire la suite aussi, retrouver mes personnages. Faut que je parle de ma série Les héros de ma classe.
Oui, ben
Ça
oui.
aussi, c'est un incontournable parce qu'on parle de livres dont vous êtes les héros. Moi, j'ai pris une classe et j'ai fait un livre pour chaque élève de la classe. Il y a 12 garçons, 12 filles. Donc, c'est 24 romans que j'ai écrits, plus un
Pour
25e
le
pour
prof.
l'enseignant, pour le
Ouais,
prof,
ouais.
exactement. Donc, ça a été quand même assez colossal comme boulot. Puis des fois, quand on les met tous ensemble, j'ai l'impression que c'est quasiment un énorme roman
Ben
à
oui.
quelque part. C'est comme une œuvre. Donc, je devrais dire ça. Faut que je parle absolument de Mort et déterré aussi.
Oui,
Parce que
tout à fait.
Mort et déterré, ça a été un roman ça a été long à écrire ce roman-là. Ça m'a pris 4 ans à l'écrire. J'ai eu le temps d'avoir deux enfants pendant que je l'écrivais. Moi, je croyais énormément à l'histoire, mais je croyais pas en. Je pensais pas que ça allait avoir un intérêt chez les lecteurs.
Oui.
Honnêtement, je pensais que j'étais trop flyé, trop dans mon monde. Mais moi, je me disais, c'est vraiment ce que je veux faire. J'ai travaillé vraiment fort. Et au contraire, la réception a été vraiment super bonne. J'ai l'impression que c'est un des livres qui m'a un petit peu mis là, comme auteur, un petit peu là, sur la carte.
Ben oui, puis avec la collaboration en Belgique aussi, ça c'est
Ben oui, ben là, c'est
intéressant.
ça, parce qu'après coup, j'ai adapté mon roman en bande
Ben
dessinée.
oui, c'est ça.
Donc, là, après ça, puis je suis encore en train de faire la bande dessinée, là, je suis en train de scénariser le tome 5.
Ah
Donc,
oui.
on est en 2024, j'ai commencé en 2004, donc ça fait 20 ans, dans le
C'est
fond, que j'ai ce
fascinant.
personnage-là, ouais.
Fascinant. J'aimerais, Jocelyn, je te coupe la parole parce qu'il faut
Il
qu'on parle
faut.
absolument de ton dernier opus, le livre Aspirateur. C'est le
Oui.
tome 1 de la série La Bibliothèque Enchantée. Ça vient de sortir en octobre chez Michel Quintin et c'est illustré par Enzo. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album? C'est-tu une bande dessinée? Comment on
C'est
qualifie
pas
ça?
clair, hein?
Non?
C'est vrai que c'est pas clair. Même quand j'en parle, je pense que c'est un hybride entre les deux. Parce
Oui.
que c'est vraiment en soi, c'est un album illustré, à mon avis, qui a un peu de bande dessinée. Mais comme il n'y a pas de texte, il n'y a pas de narration,
C'est
tous les
ça.
personnages s'expriment en dialogue.
Dans les
Donc, on est
bulles,
plus
ouais.
près, oui, dans les bulles. Donc, on est plus près des codes de la bande dessinée.
Ouais.
Puis, en même temps, comme c'est toutes des doubles pages, j'ai comme l'impression que c'est une BD dont les cases seraient des doubles pages.
Ah oui, c'est
Il y a un peu
ça.
de ça. Puis c'est comme une narration, une manière de raconter une histoire qui est un peu différente. J'ai adoré
C'est comme
écrire
t'as
ça,
créé un nouveau
vraiment.
genre, finalement.
Et quasiment une nouvelle manière de raconter,
Oui.
quasiment, oui.
Et l'héroïne s'appelle Alice. C'est une petite fille dégourdie, débrouillarde, comme on les aime, en fait. Et sa bibliothèque est remplie de livres enchantés. Qu'est-ce qui se passe dans ce premier tome?
Le livre aspirateur, elle apprend un livre qui s'appelle Le livre aspirateur, puis dès qu'elle rouvre, elle, ça y arrive toujours, là, elle rentre dans les livres, là, vraiment. Fait qu'elle se fait aspirer dans le
Oui.
livre, elle tombe dans le livre à la page 7. Il y a d'autres personnages qui sont là, puis ces personnages-là, c'est aussi des lecteurs qui se sont fait aspirer par le livre
Et qui
aspirateur.
sont pris
Fait que là,
là.
qui sont prisonniers là depuis des jours, des semaines et tout. Fait que là, elle leur parle un peu, puis tu tournes les pages, tu te rends compte que tu es toujours à la page 7.
Ouais.
Fait que là, Alice, tu sais, qui regarde ça, puis elle voit le numéro de la page, elle est consciente qu'il est dans un livre, puis elle dit, mais coudonc, pourquoi vous n'allez pas dans les autres pages, tu sais? Pourquoi vous restez toujours à la page 7? Puis les personnages disent, bon, on peut pas, il y a un monstre, il y a un dragon qui se cache de l'autre côté de la page, qui nous empêche d'avancer dans l'histoire, tu sais. Donc, c'est un peu ça la prémisse de base du livre aspirateur. Puis Alice, elle a toujours plein d'idées, très astucieuse, comme vous avez
Ouais.
dit. Donc, elle va trouver une manière d'aller dans les autres pages, mais elle a besoin de se rendre à la dernière page. Si elle veut sortir du livre,
C'est ce
ben,
qu'on
elle va même...
souhaite, hein? Ben oui.
ben oui, ben, elle va même frôler la mort carrément, parce que le
Exactement.
dragon va même mettre le feu aux pages.
Ouais,
Puis
oui.
elle va lui faire la morale, elle va dire, mais t'es bien
Qu'est-ce que tu fais
innocent.
là?
Ben, non, c'est un livre, c'est du papier, tu peux pas mettre le feu
Mais
là-dedans.
non.
Donc, notre dragon, finalement, il est pas si méchant que ça.
Non, non, il vire de bord. Tu as
Ouais.
travaillé avec Enzo, l'illustrateur.
Ouais.
Comment ce choix-là s'est fait?
Enzo, quand ça fait longtemps que j'ai cette idée-là du livre aspirateur en tête, puis c'est en voyant l'album, le très bel album là, de Pierrette Dubé
Oui.
avec Enzo qui s'appelle Un rhume de
Oui,
cheval.
un rhume de
Puis
cheval.
je l'ai trouvé vraiment drôle, bien raconté, et j'aimais beaucoup, beaucoup le style de Enzo. Et je trouvais aussi qu'il apportait beaucoup d'humour. Déjà que le texte était humoristique, c'était déjà amusant, mais je trouve que lui en rajoutait une couche. Puis après ça, j'ai regardé un peu ce qu'Enzo avait fait. J'ai vu aussi qu'il avait touché un petit peu la bande dessinée.
Ouais.
Je me suis comme dit, écoute, je pense que c'est peut-être l'illustrateur idéal pour mon projet. Puis il a vraiment tout de suite accepté, je veux dire, avant même qu'on ait une maison d'édition, là. Lui, il a lu le projet, il a dit c'est trop cool. Il a vraiment bien compris le concept. T'sais.
Ouais.
Vraiment, je sens qu'il avait bien saisi.
Donc, tu
Donc,
avais écrit le scénario, puis lui,
le
il a
scénario était écrit.
rendu
Ouais.
ça visuellement,
Exactement.
esthétiquement, comme tu voulais que ce soit.
Comme je
Donc,
voulais que ce soit, mais tu sais, quand tu travailles avec un illustrateur comme ça, c'est un peu un saut dans l'inconnu.
ben
Tu sais
oui.
pas ce qu'il va te donner. Puis on l'a laissé aller, moi et l'éditrice, après coup, parce que j'ai trouvé une maison d'édition, Michel Quintin.
Ouais.
Et puis, je veux dire, ça a été que du ravissement. Là. On était juste contents. Il nous a envoyé ses ébauches, puis on a fait, ben, c'est parfait,
C'est
l'héroïne,
ça.
on l'adore. Il y avait très, très peu de choses. Puis c'était vraiment des détails un peu techniques, mais à peine. Là. Puis même moi, des fois, je révisais un petit peu mon texte, parce que c'était quand même, j'ai tendance à charger un petit peu en dialogue. Puis comme le livre, ça reste un album illustré, BD, mais il n'est pas très grand.
Non, c'est ça. Il est tout
Il est
petit
plus
comme format,
petit.
ouais.
Donc, il fallait gérer un petit peu l'espace, mais ça s'est fait tout naturel. Ça a
Et on
été très
apprécie vraiment
facile.
beaucoup. Donc, dans chacun de ces livres de cette collection-là, Alice sort un livre de sa bibliothèque et
Ouais.
l'histoire commence. Puis elle ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Est-ce que le prochain tome est en chantier?
Le prochain tome, il est déjà écrit, en
Ah
fait.
oui. Est-ce que
Ouais,
ça va
puis
être encore le même
c'est
illustrateur?
exactement le même genre. C'est Alice qui prend un livre de sa bibliothèque. Là, ça va être le livre qui ne tenait qu'à un fil. Elle va voir un fil qui dépasse d'un livre. Elle rouvre le livre, il y a un fil qui rentre dans le livre. Elle va tirer sur le livre. Là, on va rentrer dans le livre. Il y a un héros dans mon histoire, vraiment. Là, il va voir que le fil, lui, il utilise le fil un peu comme une corde à linge. Il va tirer sur le fil. Alice va tomber dessus. Quelqu'un va dire, hey, t'as assommé le héros, c'était le héros de l'histoire. Finalement, ce qu'on va apprendre pour faire une histoire courte, c'est qu'il va devoir suivre le fil de l'histoire qui vont les mener de page en page.
Ah, oh, wow. Est-ce que, je me souviens pas si tu me l'as dit, est-ce que c'est toujours Enzo qui va illustrer
C'est
ou on
pas Enzo.
change?
Non, non, c'est pas Enzo. On a décidé que. Oh, vous
Ah,
voyez que
bonjour, on
je suis
est dans
vraiment à
une
l'école, hein?
école.
J'ai pas menti, je suis
C'est
vraiment dans
ça.
une école en ce moment.
Oui, c'est bon.
Non, c'est pas Enzo parce que, comme c'est une bibliothèque, les livres, c'est souvent des illustrateurs différents, tu sais. Donc,
OK.
on trouvait ça intéressant qu'Alice, elle apprend un livre puis qu'il y a une facture visuelle qui soit différente.
OK, on a hâte de lire ça. Dans certains, peut-être dans plusieurs des livres que tu as écrits, tu abordes le thème de la mort.
Ouais.
Franchement, des fois même crûment, pourquoi tu
Ouais.
choisis d'écrire à propos de ce sujet-là? C'est quand même tabou dans notre société.
Quand même un peu morbide, c'est quand même. Mais tu sais, moi, pour me stimuler, me donner des idées, ce qui m'inspire, je veux dire, la mort, c'est le grand mystère. On va tous mourir, on le sait que notre
Ouais.
temps C'est sur Terre.
Seule justice ici-bas.
Puis c'est difficile à accepter comme être humain. On développe une sensibilité, une certaine intelligence. On construit une vie. Mm. On sait que ça va avoir une fin. Je pense que moi, ces histoires-là, j'utilise la mort, mais c'est souvent pour mieux parler de la vie.
Ah oui, quand c'est même. Intéressant.
C'est souvent, c'est une manière un peu de contrer la mort. C'est un peu un pied de nez que je fais à la grande faucheuse à quelque part, là,
Oui,
parce
oui,
que
oui.
c'est ma manière à moi de croire que peut-être que l'immortalité pourrait exister quand, dans le fond, c'est
Ouais, mais dans le fond,
non. C'est
on
ce
est
qui
bien
nous
peu de
attend et ce
choses.
qui rend la vie merveilleuse aussi. T'sais.
Exactement.
C'est un
Sur,
sujet qui m'inspire.
ben oui, et sur ton site, tu écris ceci à tes jeunes lecteurs, tes jeunes lectrices. Tu dis, pour moi, la lecture est synonyme de plaisir. C'est l'amour du livre que je souhaite partager avant tout avec toi. Mon but, te persuader que la lecture n'est pas dommageable pour la santé. Elle peut même rendre heureux, c'est dire. Et t'ajoutes, étant moi-même un lecteur tardif, rien ne me fait plus plaisir que de donner la piqûre de la lecture aux jeunes. Qu'est-ce qui t'a donné à toi la piqûre de la lecture? Quel genre de lecteur t'étais enfant?
Écoute, moi, j'étais pas un très bon lecteur. J'étais plus un genre créatif. J'aimais pas vraiment la lecture. J'avais de la misère à me concentrer vraiment. Moi, c'était au secondaire que j'ai commencé à aimer la lecture, mais
OK.
j'aimais beaucoup les histoires. C'est vraiment ça. Moi, le cinéma m'allumait énormément.
Oui.
Donc, c'est un roman, je peux le dire, là. C'est un roman de Raymond Plante, Le dernier des raisins.
Ah
Je suis tombé
oui.
là-dessus, puis ça a tellement eu un écho chez moi, j'avais plus l'impression de lire. Tu sais, je pense qu'un bon roman, c'est quand la lecture devient absolument pas un effort, là. Tu rentres vraiment dans le
Ouais.
livre. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. J'ai comme fait, OK, ça peut être ça, la lecture. Ça peut être aussi bien que le cinéma, sinon mieux.
Oui.
Parce que là, on rentre dans mon for intérieur à moi. C'est moi le cinéaste, à quelque part, dans la
Ben, c'est
lecture.
ça.
C'est moi qui ai fait les images. Donc, ça a été le déclencheur.
D'accord. Puis qu'est-ce qui mijote d'autre dans ta marmite d'auteurs? T'en as parlé un petit peu précédemment. Qu'est-ce qu'on pourra
Ouais, ben
lire
là,
bientôt de Jocelyn Boisvert?
il y a pas mal de choses. Hein. Il y a pas mal de titres. Là, j'ai ma série, Les super-héros de ma famille. J'ai déjà deux titres qui sont en préparation. Je fais un livre pour chaque membre de la famille. J'ai
Oui.
parlé de la suite des moustiques. Je vais publier aussi une série dans la maison d'édition La Bagnole.
Oui.
Et ça va être, au moins, il va y avoir au moins trois romans. Ça, j'ai bien hâte de faire ça. On va aussi faire un quatrième opus pour la Ligue des Pas Si Champions. Là, dans les prochains jours, là, il faut vraiment que je fasse la suite de Kung Fu Manga, le
Oui.
tome 2 de Kung Fu Manga. Écoutez, puis il y a plusieurs autres choses. J'ai des albums illustrés aussi qui vont sortir chez Les Malins et à La Bagnole. Ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va
Ça
donner.
n'arrête jamais. Alors, c'est
Ça n'arrête
foisonnant.
jamais, oui. Non, ben écoute, c'est vraiment par passion, c'est vraiment parce que j'aime ça. Hein.
Oui, ben
Moi,
oui.
j'essaie pas de battre aucun record, c'est pas ça l'idée, mais c'est que je prends toujours des idées en note, puis des fois, il y a des idées que je trouve bonnes, je dis, ça mérite, tu sais,
De faire quelque chose
de
avec ça.
faire une histoire avec ça, ouais.
On termine, Jocelyn, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que tu as une suggestion pour nous?
J'ai vraiment une suggestion aux 400 coups. Il y a un album illustré que je trouve absolument formidable. C'est écrit et illustré par Pascal Roussin. Ça s'appelle Memphis et Renard.
Oui.
Memphis et Renard. Et je parle de lui parce qu'il y a quand même une certaine parenté avec le livre Aspirateur. T'sais.
Oui.
On déconstruit un petit peu le médium du livre. Le personnage se sent un peu tout nu parce qu'il a
Il a
perdu
perdu
sa
son
ligne de contour.
contour, c'est ça.
Exactement, puis la recherche. Et quand j'ai lu ça m'a tellement inspiré. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai adoré le dessin aussi.
Oui.
Moi, c'est un petit bijou.
Excellente suggestion. Je voudrais te remercier, Jocelyn Boisvert, pour cette rencontre. Merci pour ton imagination fertile, pour ce plaisir de la lecture que tu fais découvrir et vivre aux jeunes, même les plus récalcitrants, pour les univers étranges, mystérieux, qui accrochent tes lecteurs, tes lectrices dès les premières pages et qui les gardent là jusqu'à la fin, au grand, grand plaisir, Jocelyn Boisvert.
Ben écoute, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Je m'appelle Alexis et j'ai 8 ans et j'aime lire de l'histoire de fiction réaliste parce que j'aimerais ça que ça arriverait à moi.
À
Allô, je m'appelle Jenna, j'ai 7 ans, je sais maintenant comment écrire des visions réalistes. Il faut penser à une idée que ça peut arriver dans la vie. On écrit des phrases, on fait ce qu'on a besoin d'écrire et si tu fais un livre avec 5 pages, à la deuxième page de l'histoire, il faut que ça s'arrive une aventure.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 7 ans. J'aime lire des histoires de fiction réaliste parce que je peux apprendre des nouveaux mots, des nouvelles choses et aussi je peux apprendre des nouveaux mots comme mathématiques.
Coup de cœur de bibliothécaire.
Bonjour, Sophie Curler.
Bonjour, Marie Lalande.
On reprend aujourd'hui notre collaboration débutée l'an dernier. Sophie, je rappelle que vous travaillez à la direction des bibliothèques du service de la culture et que vous offrez vos services de spécialiste jeunesse aux 45 bibliothèques de Montréal. Dans votre chronique d'aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler des 5 livres finalistes au prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 2024, dont c'était la 20e édition. On vous écoute.
Merci, Marie. Le premier finaliste dont j'ai envie de vous parler, c'est Nutchimit, un bain de forêt, qui a été écrit par Mélissa Molène Dupuis et illustré par Élise Gravel aux éditions Scholastique. Mmh. Alors, Nutchimit est un album documentaire sur le thème de la nature. Il est drôle, abondant dans les détails et très accessible pour aborder cette thématique. La lecture, elle est fluide, remplie de détails. Elle permet de se plonger dans ce livre par petits bouts ou dans son entièreté. Et grâce à leur riche expérience, l'auteur Inou Mélissa Molène Dupuis et l'illustratrice Élise Gravel proposent un ouvrage magnifique pour s'imprégner de la culture des peuples autochtones.
Ah, c'est formidable! C'est un très, très bon livre.
Oui. Le deuxième titre finaliste, c'est Le dessin trop mignon de Roxane Brouillard au texte et Caton, qu'on connaît très bien, la célèbre BDiste, donc qui a illustré Le dessin trop mignon. Mmh. C'est aux éditions Fonfon. Alors, Roxane nous avait surpris en 2020 avec son premier album très inusité, Mon chien banane. Elle revient donc avec Le dessin trop mignon, qui est plus léger et très ludique. Mais comme ses précédents albums, Roxane touche une thématique très absurde. Et cette fois, c'est l'histoire de Martin qui, durant son cours de maths, pour se distraire, va dessiner le dessin le plus mignon. C'est un album qui ne manquera pas de faire pleurer de rire les 7 à 77 ans.
Oui, puis on les entend, les enfants, quand on leur lit ce livre-là, hein, ils font... Oh, c'est très, très drôle.
C'est mignon, mignon comme tout. Ouais. Le troisième titre finaliste, c'est « Je t'écris de mon lit » par Maude Neveu-Villeneuve au texte et les illustrations sont de Agathe Bray-Bourret aux éditions Les 400 coups. Maude et Agathe ont créé un magnifique album épistolaire, les mots sont juste vraiment très bien choisis et grâce aux lettres échangées par Jacob et Zia, on est témoin des préoccupations des enfants du primaire, que ce soit dans leur quotidien ou dans ce que la maladie a de plus atroce. Mmh. Les illustrations s'harmonisent complètement au texte. C'est vraiment un album qui est venu me chercher droit au cœur, qui célèbre autant l'enfance que l'amitié.
Et qui finit bien, disons-le.
Vraiment. L'avant-dernier titre, c'est la célèbre Orbie au texte et aux illustrations, Le tiroir des bas tout seul, toujours aux 400 coups. Alors, Orbie revient avec une histoire qui va toujours nous charmer par son humour décalé, sa légèreté, son côté bon enfant. Et Orbie a décidé d'écrire un livre sur le mystère des bas perdus. On n'avait pas d'album sur le sujet, elle l'a fait. Donc, en suivant les enquêtes de Madeleine et de Louis, vous allez rire, sourire et peut-être découvrir où se cachent ces fameuses chaussettes qu'on ne trouve jamais. Vous aurez sûrement, comme moi, envie de le relire 100 fois et plus.
Oui, puis ça, ça se passe dans toutes les maisons. C'est vraiment, c'est partout.
Toutes les maisons, on cherche le deuxième bas, là, c'est...
Oui.
Et le dernier titre finaliste au prix, c'est le manoir Ilcrest de Sandra Dussault au texte et de Martin Côté aux illustrations, par la courte échelle. Même si l'Halloween elle est terminé, c'est encore le temps de lire des histoires d'horreur. Donc, imaginez-vous un manoir isolé, deux jeunes garçons élevés par des parents très rigides, sévères, puis des monstres qui errent la nuit aux portes du manoir. Maintenant, mettez-vous à la place du Benjamin de la famille qui se pose constamment la question « Quels sont ces événements ayant eu lieu avant sa naissance ?» qui l'empêche de quitter sa maison. C'est une histoire d'horreur super bien ficelée, à lire le soir pour avoir encore plus de frissons. Et je mentionne la mise en page du livre avec les couleurs noires et blanches sur la tranche. C'est extraordinaire.
Et c'est ce qui fait la particularité de cette collection, la collection noire. Celui-là, c'est un album qui a combien de lunes? Trois lunes, hein, c'est ce qu'on pense. Et le nombre de lunes donne une idée du degré d'horreur ou de suspense, c'est ça?
Et puis, on donne aussi une indication pour le lectorat. Donc, il faut quand même être un bon lecteur pour s'approprier cette histoire-là.
D'accord. Sophie, la remise du prix a eu lieu le 24 octobre dernier, en présence notamment de Barbada. On l'a mentionné aux actualités littéraires de la dernière émission, mais rappelez-nous quand même qui est le lauréat de 2024.
Oui, roulement de tambour. Alors, c'est les belles Roxane Brouillard et Caton avec le dessin trop mignon aux éditions Fonfon. Et j'invite tous nos auditeurs et auditrices à venir se procurer le livre dans les magnifiques bibliothèques de Montréal.
Invitation reçue. Bravo. Bravo aux deux lauréates et bravo aux finalistes parce que c'était 5 livres vraiment très intéressants. Merci pour ces suggestions. On pourra trouver toutes les références sur le site de l'émission. Je vous remercie, Sophie Curler. Au plaisir de vous retrouver pour votre prochaine chronique en mai prochain.
À bientôt, Marie. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Je m'appelle Lexi, j'ai 7 ans. J'ai aimé ce livre, c'est La Ruelle, parce que c'est un livre de fiction réaliste. J'ai aimé beaucoup les mots, les pages, tout qu'est-ce qui était dans ce livre. Puis ce livre, en fait, qui m'aide à relaxer.
Restez avec nous. En deuxième partie d'émission, après cette courte pause, on parle de la programmation jeunesse du Salon du Livre de Montréal avec son directeur général, Olivier Goujon, et c'est l'auteur jeunesse Jean-François Sénéchal qui investit aujourd'hui la chronique « Tribune littéraire de grandes personnes ». Il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute.
Je suis Liane, je suis 7 ans. J'aime Luca, c'est un livre. J'aime lui parce qu'il est comme moi et il a la même chose, il fait la même chose que moi et il est drôle.
Je m'appelle Lily Rose, j'ai 7 ans. J'ai beaucoup aimé Petit geste parce que ça me fait ressentir des émotions, puis aussi ça me fait ressentir mon ami.
Mon nom c'est Laurélie, j'ai 7 ans. J'aime ma vie heureuse parce qu'il y a beaucoup d'émotions et ça me fait penser à ma BFF. Une BFF, ça veut dire un meilleur ami pour la vie.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis aujourd'hui. On parle d'un événement fabuleux, un moment et un lieu où la littérature prend une place de choix, le Salon du livre de Montréal. Et pour ce faire, on reçoit en studio Olivier Goujon, son directeur général. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Bienvenue à Imagez-moi à voix haute. Olivier, on vous propose un défi de taille, c'est-à-dire présenter ce que le Salon du livre offre au public jeunesse en moins de 13 minutes. Alors, on va commencer par le début, la base. Le Salon du livre de Montréal, édition 2024, c'est où, c'est quand, combien ça coûte, puis comment les parents, les enseignants, les jeunes devraient-ils s'y préparer?
Alors, effectivement, c'est un défi, mais on va essayer de le relever. Mais je pense que vous allez tous et toutes m'aider à relever ce défi. Si on n'a pas le temps de tout dire, la meilleure façon, ça va être de venir constater sur place. Alors, c'est quand? C'est du 27 novembre au 1er décembre, d'accord, au Palais des congrès de Montréal, en plein cœur du centre-ville de Montréal, accessible en métro.
Oui.
Métro Place d'Armes. Je recommande à toutes les personnes de venir en métro. C'est la meilleure façon pour y venir. Et on sort du métro, même pas besoin de sortir dehors. Et puis, le salon du Livre de Montréal est là pour vous accueillir en famille, entre amis. C'est donc du mercredi au dimanche. Les journées de semaine sont les journées où il y a un petit peu moins de monde en soirée. Je recommande, puis on pourra en parler, mais en plus, on a une super offre après l'école pour venir avec ses enfants après l'école au salon. Et sinon, la fin de semaine, évidemment, c'est extraordinaire. C'est une belle sortie en famille, mais là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de monde. Le coût, c'est tout petit, c'est 13 $ le billet, mais il y a toutes sortes d'offres. Si vous êtes abonné à la Bibliothèque de Montréal, aux Bibliothèques de Montréal, à BANQ, vous pouvez entrer gratuitement.
Ah, oui.
Et Marie, l'élément le plus intéressant, c'est que les enfants de moins de 18 ans entrent gratuitement en semaine.
Okay.
Et la fin de semaine, ce sont les enfants de moins de 13 ans qui entrent gratuitement. Donc vraiment, pour les enfants, il faut venir.
C'est accessible.
Exactement. C'est très accessible et c'est une de nos valeurs, et d'essayer de rendre cet événement-là le plus accessible. Si on pouvait le faire gratuit pour tout le monde, on le ferait. C'est un événement d'envergure, c'est pas possible, mais on a toutes sortes de mesures pour accueillir les familles et les enfants.
Et c'est très apprécié. La programmation est foisonnante. Il y a des séances de dédicace, des ateliers, des conférences, des tables rondes, des rencontres avec des créateurs, des heures du conte, etc. On rappelle l'adresse sur le web, donc www.salon du livre de Montréal en un seul mot, sans accent.com. Comment faire des choix judicieux avant d'arriver et une fois sur place?
Bien, en fait, ce qui est intéressant avec le Salon du livre de Montréal, c'est qu'on réussit, bon an, mal an, à vraiment toucher une très grande pluralité de public. Moi, j'aime bien dire que le salon, c'est vraiment de 0 à 100 ans. et il y a vraiment un espace pour les tout-petits jusqu'à... Puis là, on va avoir le prix Jeannette Bertrand cette année.
Oui.
Jeannette Bertrand qui va avoir 100 ans. Donc, c'est vraiment représentatif du salon. Et c'est le salon de tous les livres. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, effectivement, pour choisir, la meilleure façon, c'est d'aller en ligne et de se faire son parcours à travers le site. Et il y a une application qui s'appelle Mon Salon, et c'est vraiment la meilleure façon. Mais si vous n'avez pas le temps, à ce moment-là, il s'agit de venir et de déambuler, d'accepter de découvrir sur place. Et je peux vous garantir que vous allez rencontrer toutes sortes de moments magiques et vous allez avoir toutes sortes de belles expériences.
C'est vrai, puis c'est vraiment ça, hein, la magie du salon. Pour les élèves du primaire et les étudiants du secondaire accompagnés de leurs enseignants, de leurs enseignantes, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a les matinées scolaires, 27, 28, 29 novembre. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire avant, ou est-ce qu'ils devaient le faire avant?
Alors, merci de me poser la question, parce que les matinées scolaires, c'est ce qui donne au salon sa renommée. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même, j'en suis le fruit. Enfant, je suis venu au salon et j'ai découvert ce palais des livres extraordinaire. Je me souviens courir dans les allées. J'avais dans ma poche un 10 $ et je pouvais acheter peut-être 5 à l'époque. Là, aujourd'hui, on donne aux enfants un petit peu plus. Mais je pouvais acheter un livre moi-même. Donc, c'était un acte d'achat autonome, parfois le premier. Et il y a quelque chose de magique. Donc, C'était vraiment une expérience extraordinaire. Et c'est 20 000 jeunes qu'on accueille. Et malheureusement,
c'est énorme.
Ah, c'est énorme. C'est vraiment 20 000 jeunes sur 3 jours. Mm-hmm. Et malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, les billets partent très, très vite. Ouais. C'est gratuit. Hein, on les accueille gratuitement. Et alors, qu'est-ce qu'on on cherche d'autres mesures pour accueillir justement les enfants qui ne peuvent pas venir avec leur école. L'année dernière, il y a eu la grève.
Oui.
La grève a permis à plein de parents de venir avec leurs enfants. Mm-hmm. Ils ont découvert le salon. Ils se sont rendus compte que leurs enfants connaissaient les autrices et les auteurs. Ils ont dit, ah, tu connais ce livre-là, comment ça se fait? Et eux-mêmes, ils ont pris goût. Alors, cette année, Marie, il y aura les matinées scolaires.
Oui.
Donc, les enfants qui peuvent venir avec leur école, tant mieux. Mais pour tous les autres, mm-hmm. venez après l'école. Venez avec vos enfants après l'école parce que du mercredi au vendredi, à partir de 15 heures, ce sera gratuit pour le premier accompagnateur qui va venir avec un enfant.
Et donc, pour l'enfant, c'est gratuit aussi.
Et pour l'enfant, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison de laisser les enfants au service de garde. Si vous pouvez vous libérer, cette année, après l'école, c'est au salon que ça se passe.
Et si ce n'est pas un achat autonome pour l'enfant ou l'étudiant, c'est une belle façon de se faire une liste pour des éventuels cadeaux.
Et exactement, une belle liste. Et puis ensuite de ça, vous allez en librairie acheter les livres. Parce que le salon, oui, on peut acheter des livres, mais on dit toujours une journée au salon, 365 jours en librairie.
Bravo. Et on salue les libraires.
Absolument.
Pour les tout-petits, vous en avez parlé. Qu'est-ce qu'il leur est offert à l'espace tout-petit?
Alors, l'espace des tout-petits, moi, quand j'ai été nommé il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'ils étaient pas... les tout-petits étaient un peu exclus, finalement. On avait un espace crèche, mais ils n'étaient pas au cœur du salon, souvent. Mais pourtant, eux aussi aiment manipuler les livres. Alors, il y a toujours eu, par contre, je le dis là, un espace pour les mamans qui allaitaient ou les papas qui changent les couches. Et donc ça demeure. On a un espace des tout-petits. On appelait l'espace poussette.
Oui.
Et cette année, on l'appelle l'espace des tout-petits parce que, oui, il y a les salles d'allaitement pour tranquille, pour se reposer un peu, pour changer les couches. Mais il y a également un espace pour pour les enfants, donc pour sous une tente en collaboration avec le festival Petit Bonheur qui est installé à Hochelaga-Maisonneuve.
Mais
il y a des livres qu'ils peuvent manipuler. Puis on a une Tania Baladi que vous connaissez sûrement qui vient raconter des histoires aux enfants régulièrement pendant le salon.
D'accord. Alors les tout petits, les élèves d'âge du primaire, du secondaire. Et donc, du secondaire, qu'est-ce qui est offert spécifiquement aux adolescents?
Alors, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup... La littérature jeunesse est extrêmement foisonnante pour les jeunes du primaire. Quand on arrive au secondaire, c'est encore présent jusqu'à 13, 14 ans, mais après, c'est pas toujours facile. Et les jeunes ont tendance à abandonner parfois à cet âge-là la lecture.
C'est
on sait
triste,
que c'est un grand défi. Les profs peuvent en dire long là-dessus. Mm-hmm. Les parents aussi. On vit un vrai défi en ce moment là, par rapport à tout ça, mais je pense que collectivement on connaît la valeur du livre et de la lecture, et je pense que les éditeurs en ce moment ont vraiment une belle offre éditoriale pour les adolescents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au salon, on essaie de refléter cette offre-là, et puis on a un espace dédié aux adolescents, aux 12-18, qui s'appelle l'espace Lis-moi Montréal, dans lequel Sophie Lee, qui est
Sophie Gagnon,
qui est une ancienne enseignante, qui est maintenant une influenceuse, finalement, pour la littérature adolescente, on peut le dire. Et elle va animer l'espace avec des activités de toutes sortes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a aussi un cabaret pour les ados qui s'appelle le Cabaret des étoiles, où est-ce qu'on va parler justement du passage à l'adolescence. Et on a également une zone manga, où souvent les jeunes garçons, mais c'est aussi les filles, peuvent aller, permettez-moi l'expression, s'effouérer dans un beanbag, dans une grande poche, et emprunter un manga et le lire sur place.
À l'envers, parce que les mangas, ça se lit
exactement,
à l'envers.
Exactement, c'est ça.
Oui. Alors, il y a des activités offertes spécifiquement aux jeunes de certains centres de services scolaires Marguerite Bourgeois. Il y a le salon Dans ta classe, qui a lieu plus tôt, en fait, dans les dates, là.
Voilà.
Effectivement. Puis, il y a quelque chose aussi qui est offert aux jeunes du CSS de Montréal, le grand jeu de lecture à voix haute. Qu'est-ce que c'est?
En fait, on essaie de faire des collaborations le plus possible avec des organismes et des institutions desquelles, qui partagent nos valeurs. Donc, évidemment, les institutions d'enseignement, ça va de soi. Les centres de services scolaires Marguerite Bourgeois avec le Salon dans ta classe qui fait partie du volet en ligne parce que là, on rejoint là, près de 20 000 élèves dans leur classe avec des activités qui ont lieu dans deux semaines avant le salon.
Ouais.
Et avec le centre scolaire de Montréal, le centre de services scolaires de Montréal, on a l'initiative du grand jeu de lecture à voix haute. Et là, dans les classes, les profs font lire des textes à voix haute à leurs élèves et il y a une sélection qui est faite avec les meilleurs ou en tout cas ceux qui sont les plus passionnés, on va dire ça comme ça. Et ensuite, ils lisent sur place au salon devant public et ça, c'est magique. Là.
C'est comme la version pour le troisième cycle de ce qui est offert par Lis avec moi.
Exactement.
Qui, lui, est offert aux élèves du deuxième cycle.
Exactement.
Donc, pour les élèves du troisième cycle, au salon,
voilà.
On pourra voir et entendre les élèves.
Le mercredi, effectivement, à 10h et à 13h avec les 5e et 6e années.
Oui.
Et on le fait en collaboration notamment avec Lis avec moi.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce qu'il y a un ou des événements pour la jeunesse qu'il ne faut absolument pas manquer cette année?
On oublie beaucoup de choses, puis c'est normal parce qu'il y a vraiment beaucoup. C'est très, très, très foisonnant. Mais honnêtement, je pense que ce qu'il faut nommer, c'est le fait que le Salon du livre de Montréal est un événement en soi auquel on doit participer avec ses pieds, sa tête, son corps.
Son cœur,
exactement. Ouais. Donc, aller sur place, c'est festif. Mm. Mon fils m'a dit, « Papa, est-ce que ça va être aussi cool cette année, le Salon du livre de Montréal. » Puis, donc, il a 8 ans. L'année dernière, il a vécu un moment parce qu'il a joué dans l'espace jeunesse, à l'espace Radio-Canada. À plusieurs endroits, il a découvert des petites choses pour lui. Et puis, il a surtout vu ses parents aussi avoir du plaisir. Donc, c'est vraiment intergénérationnel.
Ah, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Olivier, pour cette édition de 2024 du Salon du livre de Montréal?
Je nous souhaite à toutes et tous que ce salon soit un moment suspendu dans une période géopolitique, sociale, complexe.
Mm.
Et c'était le cas l'année dernière. Il y a eu de la magie. Je nous souhaite que cette année encore, on ait cette magie qui nous unit.
Comme un baume. Hein,
ouais.
Ça va faire du bien. Merci à vous, Olivier Goujon, directeur général du Salon du livre de Montréal, d'avoir relevé le défi proposé. Merci pour les idées, les suggestions, les propositions de rencontres et de coups de cœur littéraires. Au plaisir. Bon salon.
Merci infiniment, Marie.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Matt et j'ai 7 ans. J'ai aimé lire les histoires de Rafi parce que ça parlait que Rafi avait plus d'idées quand il écrivait des livres. Puis moi aussi, ça m'arrive des fois quand j'ai besoin d'écrire des livres, j'ai aussi vraiment plus d'idées. Mais après, j'en trouve.
Je m'appelle Mickaël. J'ai 7 ans. J'aime lire tes livres parce que ça me rend heureux.
Bonjour, je m'appelle Nora et j'aime écrire de la fiction réaliste parce que ça permet d'écrire en plus et aussi parce que on sait plus de choses à propos de ce thème.
Tribune littéraire de grandes personnes.
Tout au long de la saison, des créateurs, des créatrices du monde littéraire assurent tour à tour cette chronique. Ils partagent avec nous un coup de cœur ou un livre jeunesse qui les a marqués. Aujourd'hui, c'est l'auteur jeunesse Jean-François Sénéchal qui investit cette tribune littéraire. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Je vous présente rapidement. Jean-François, vous êtes l'auteur notamment de la trilogie Chris, Le boulevard, Au carrefour et les avenues, évidemment, Feu, Trois fois ma vie et des albums Colette n'a besoin de personne et Je voudrais te dire.
Oui.
Vous êtes né au milieu des livres. Vos deux parents étaient enseignants. Ça, c'est la joie pour certains, mm-hmm. Le désespoir pour d'autres. Jean-François, on vous écoute.
Merci, Marie. Alors, j'aimerais vous présenter un livre que j'ai adoré, un vrai coup de cœur, comme il ne m'en arrive pas si souvent. Un livre que j'aurais aimé écrire moi-même et qui donc fait maintenant partie de ceux que je ne pourrai jamais écrire. Il s'agit de L'Inoubliable de Lou Beauchesne, publié chez La Courte Échelle en 2023. J'ai eu la chance de le lire en tant que juré du prix du gouverneur général volet texte jeunesse et je suis heureux de rappeler qu'il a été lauréat cette année-là. Le livre a aussi été finaliste au prix Alvin Bellil, en plus de recevoir des éloges de toutes parts. Je ne suis donc pas le seul à avoir aimé ce livre, qui est selon moi un incontournable de la littérature jeunesse.
Tout à fait.
Et que je vous encourage bien sûr à lire tous. Toutes. Mais de quoi parle donc cette œuvre magnifique? De deuil, de résilience, de guérison, d'amitié, d'amour, de vie familiale.
Oui.
D'écriture aussi, puisque le livre consiste en une série de lettres que l'héroïne écrit à sa sœur décédée à la naissance. Des lettres pour exorciser sa peine de n'avoir jamais connue, mais aussi pour mieux nommer les effets que ce décès a eu sur sa famille, en particulier la séparation de ses parents.
Mmh.
Avec ses lettres, Mimi tente de faire la paix avec son passé, de s'en libérer pour mieux affronter les épreuves du présent. La petite Linou, sa sœur disparue, devient celle à qui Mimi confie son quotidien, ses épreuves, ses questionnements, ses doutes. Le propos est touchant, comme vous pouvez vous en douter, parfois bouleversant, mais ce qui fait selon moi la grande force du livre, c'est la narration de Mimi elle-même. Ce personnage attachant, plein de vivacité et d'aplomb, qui observe, qui réfléchit, qui réagit aux événements et qui s'engage dans le monde pour mieux y trouver sa place. C'est une jeune adolescente de 13 ans, à la fois candide et lucide, dont les mots émeuvent autant qu'ils font sourire, sans jamais tomber dans le pathos ou le mélodrame. Et lorsque Mimi parvient enfin à dire adieu à sa sœur, au terme d'un été de confidence, d'expérience et de choix nouveaux, c'est pour s'en trouver grandie, plus forte, plus confiante, plus sereine. Le texte est imprimé en vers libre dans le livre, ce qui contribue à son caractère poétique. Et le personnage aussi écrit sur une vieille machine à écrire trouvée dans une brocante. La police typographique choisie évoque d'ailleurs le charme suranné de cette machine d'une autre époque.
Ouais.
J'aimerais maintenant vous lire un extrait tiré des premières pages
Ça,
du livre.
Ça, c'est un immense plaisir, les lectures d'extraits. On vous écoute.
Je suis une sœur sans sœur. Et je pense souvent, Linou, à ce qu'aurait pu être notre vie ensemble. En ce moment, tu serais peut-être en train de prendre le thé avec tes ours en peluche. Tu courrais partout, tu poserais mille et une questions, tu serais mignonne à croquer et tu donnerais les plus beaux bisous du monde. Je te tiendrais par la main, je te chatouillerais, je te laisserais gagner au tic-tac-toc. Je t'apprendrais à claquer des doigts, à siffler, à faire des bulles avec de la gomme ballon. Tu hériterais de toutes mes Barbies. Avec les vêtements, les accessoires, le décapotable, le bateau. Parfois, on se taperait sur les nerfs, c'est normal entre sœurs. Mais vois-tu, même ces moments-là me manquent. Si ta naissance était déroulée normalement, peut-être que papa et maman seraient encore ensemble et qu'on serait allés à Disney World. Maman me l'a dit 100 fois, si on n'est pas quatre, ça coûte la peau des fesses et ça ne vaut quasiment pas la peine. Parce qu'il y a toujours des rabais pour les familles de quatre, jamais pour les autres. Quatre, c'est le chiffre magique, le chiffre idéal, même quand on veut commander du poulet chez Saint-Hubert. Et qui ne rêve pas d'avoir une famille parfaite, comme celle qu'on voit dans les pubs de mini-fourgonnettes? Hein? Dis-moi, qui?
C'est beau, c'est tellement beau.
Alors voilà, malgré ma gorge enrouée, j'espère que cette lecture a rendu justice à ce très beau texte que je vous invite à lire si vous avez entre 12 et 112 ans, puisque je crois que les bons livres sont capables de satisfaire des lecteurs de tous les âges. Et c'est indéniablement le cas pour L'Inoubliable de Lou Beauchesne.
Oh, c'était une vraiment bonne chronique. Je vous remercie. D'ailleurs, on a eu la chance de recevoir Lou Beauchesne à l'émission qui a été diffusée le 13 octobre dernier. Tous les liens sont sur notre site. On peut aller réécouter ça. J'aurais voulu, à ce moment-là, lire un extrait de L'Inoubliable, puis le temps nous a manqué. Alors, on se reprend ici. Je trouve ça vraiment génial. Merci, Jean-François Sénéchal, d'avoir accepté notre invitation. Puis on aura, je le souhaite, encore d'autres occasions de vous lire ou de vous rencontrer dans un prochain Salon du livre. Au grand, grand plaisir.
Au plaisir.
Merci.
Au revoir.
Je m'appelle Rodiane, j'ai 8 ans et demi, puis j'aime beaucoup les bandes dessinées, puis j'aime, dans les bandes dessinées, j'aime plus les agents. Parce que il y a plusieurs univers, puis c'est le fun, parce que t'as plusieurs univers que tu peux comprendre qu'est-ce qu'il veut dire.
Je m'appelle Ilias, j'ai 7 ans. J'aime les mangas parce qu'il y a de l'action et des combats.
Les actuels littéraires!
D'autres d'autres idées de lecture et de sorties littéraires sur le site de l'émission. On vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 1er décembre, à Marie raconte, je lis Blanche comme un drap de Chloé Varin et Rémi Allen, publié chez Fonfon. C'est un récit réconfortant sur l'affirmation de soi. La petite fille de cette histoire se sent invisible. Ses parents sont pris dans leurs activités d'adulte jusqu'à ce qu'elle fasse une rencontre déterminante avec le chien Canaille. On écoute un extrait. Canaille, qui est là, comme si elle n'attendait que moi. Avec sa fourrure qu'on dirait aussi douce qu'un tapis de mousse. Canaille, qui me fait sentir que j'existe. Avec sa queue qui s'agite au rythme d'une chanson triste. La chienne est assise dans la neige, à l'endroit où Blanche l'a laissée, derrière la clôture, quelques os plantés dans la neige autour d'elle. Le drap de Blanche encore entre ses dents. Elle attend Blanche. On en a parlé plus tôt avec Olivier Goujon, le directeur général de l'événement. Du 27 novembre au 1er décembre se tient la 47e édition du Salon du livre de Montréal au Palais des Congrès. On surveille entre autres les activités qui se tiennent à l'espace jeunesse, l'espace des tout-petits et l'espace ado Limois-Montréal. Pour tout savoir sur la programmation jeunesse du Salon du livre de Montréal, le lien est sur notre site. Les lauréats des prix littéraires du gouverneur général de 2024 sont, dans la catégorie littérature jeunesse texte, Une bulle en dehors du temps de Stéphanie Meunier, édité chez Leméac. Et dans la catégorie littérature jeunesse, livres illustrés, Le premier arbre de Noël, un conte inou d'Ovila Fontaine, illustré par Charlotte Parent, des éditions de La Pastèque. Bravo et félicitations à tous les finalistes. Un événement organisé par les éditions de La Pastèque et les éditions Les 400 coups permettra de rencontrer les deux créatrices italiennes Felicita Sala et Francesca D'Alfonso mardi 26 novembre à 18h30 à l'Institut culturel italien au 1200 avenue du Docteur Penfield à Montréal. Samedi 30 novembre, à la librairie Le Port de Tête, de 10h30 à 12h30, c'est l'heure du conte dédicace avec, encore une fois, Francesca D'Alfonso et les éditions Les 400 coups. Les détails sont à confirmer et sur le site, vous allez trouver le lien de la librairie Le Port de Tête pour confirmer tout ça. Bravo aux éditions 2, dont le roman Charbon Bleu d'Anne Loyer et Gérard Dubois a remporté le prix Vendredi 2024, c'est le nom du prix, Vendredi, remis par un jury de jeunes Passe Culture en France. Félicitations également aux lauréates Christine Beaulieu, qui est l'autrice et l'illustratrice Caroline Lavergne, puisque leur livre « Les saumons de la Métis » a remporté le prix TD de la littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Et en terminant, soulignons quelques sorties de livres récentes. Chez Héritage Jeunesse, une nouvelle collection pour ados, la collection CLIC, C-L-I-K. Des textes courts et percutants, l'auteur Nicolas Aumet est l'ambassadeur de cette nouvelle collection et il signe l'un des quatre titres actuellement disponibles. Chez Dominique et compagnie, pour les plus petits, l'album Le gros méchant quelque chose, en un seul mot, gros méchant quelque chose, de Nicole Tessier et Catherine Petit. C'est l'histoire de Léo et Théo qui ne savent pas comment se débarrasser de cette créature qui empêche les enfants de dormir la nuit. Chez Pastel, un très bel album grand format de Karl Norak et Stéphane Poulain, Debout les arbres. Zad, le sanglier, adore les arbres, mais pas les hommes, car il coupe les troncs sans réfléchir. Un jour, il découvre que la société immobilière des quatre frères grandes mallettes envisage de raser la forêt. Chez Kaléidoscope, un autre très grand format, l'album « Chez nous » de Mark Jensen. Moon, l'extraterrestre, pose son vaisseau sur la Terre et rencontre Ava. Ensemble, ils partent à la découverte des merveilles du monde. Aux éditions de Lysatis, deux nouveautés, La grande évasion de Roquette, d'après une histoire vraie, de José Dupuis et Camille Lavoie. Roquette, c'est une poule courageuse qui vit comme des milliers de poules pondeuses dans un poulailler industriel confiné dans une cage sans fenêtre. Et elle n'a qu'un souhait, s'évader. Et le documentaire « Les feuilles qui parlent, la petite histoire du livre » de Richard Adam et France Desmarais, illustré par Julien Roudeau. C'est un documentaire qui raconte évidemment l'histoire du livre, une mine d'or de découvertes. Pour les plus jeunes, les deux albums aux 400 coups, « La cape d'Émile » de Catherine Buquet et Dominique Hiel. Émile adore sa cape, elle le suit depuis toujours. Et le jour où sa maman décrète que son vêtement adoré est trop petit et prêt à passer dans les mains de sa petite sœur, c'est la panique. Il y a aussi « Le nerf de la guerre » d'Ilan Brennman et Guilherme Karsten. Conflit, querelle, c'est si vite arrivé. Pour les animaux, comme pour les humains, les situations peuvent s'envenimer rapidement, prendre des proportions inattendues, et le ton est humoristique et léger. Pour les adolescents, chez Boomerang vient de sortir le troisième tome de la trilogie Maléfice, L'affrontement de Pénélope Jolicoeur, un roman avec trois adolescentes dont les familles cachent de lourds secrets impliquant des forces du mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs, l'auteur pour la jeunesse Jocelyn Boisvert, la bibliothécaire Sophie Curler, Olivier Goujon, directeur général du Salon du Livre de Montréal, l'auteur Jean-François Sénéchal pour la Tribune littéraire d'aujourd'hui, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans deux semaines.